Vamos lá, eu espero. Tu vas partager quelques images. Un roi, toi. Nous avons la discussion avec Salomon, entre Salomon et Dieu. On a vu que là, Dieu a parlé à Salomon en songe, il lui a demandé ce qu'il voudrait que Dieu lui donne. Que Dieu lui donne. Je commence par le verset 9. Salomon dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? L'âme dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura en temps toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et donc, moi, ce qui m'a marqué dans ce passage, c'est, si vous l'avez évoqué le jour-là, c'était que Salomon voulait de l'intelligence pour exercer la justice. Il a demandé de l'intelligence à Dieu pour pouvoir exercer la justice. Et cela nous rapproche vraiment de Matthieu 6, 33, quand la Bible va dire de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses nous seront données par des autres. Et quand on voit dans ce passage, Salomon a demandé de l'intelligence pour exercer la justice de Dieu, pour exercer la droiture. Et Dieu lui a donné en fait toutes choses. Il a demandé la justice, il n'a pas demandé de l'argent, de la richesse, non, rien. Parce qu'il a demandé de la justice. Dieu lui a fait grâce, il va donner toutes choses en plus. Et Dieu en vrai cherche des gens qui sont prêts, qui sont disposés à exercer la justice en fait. Des gens qui sont prêts à intercéder pour ceux-là qui subissent de l'injustice tous les jours. Des gens qui sont prêts à s'investir, à se placer entre le peuple et Dieu comme Moïse. Parce que Moïse est un grand intercesseur. Par Moïse, Dieu n'a pas pu détruire le peuple d'Israël. Moïse a plaidé pour que Dieu ne détruise pas le peuple d'Israël. Donc Dieu cherche vraiment ces gens-là, ces personnes qui cherchent à pratiquer la justice. Et ces personnes sont rares aujourd'hui. Ces personnes sont rares à trouver. Et on peut voir ça dans Psaume 14, verset 2. Dans Psaume 14, verset 2, l'Évangile dit que Dieu, l'Éternel du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Des gens qui soient intelligents, qui cherchent Dieu et qui cherchent à connaître Dieu, à faire la volonté de Dieu. Nous avons évoqué dans nos prières que Dieu, en vrai, ne veut pas que des âmes périssent, qu'il y ait des gens qui ne le connaissent pas, mais il veut que son évangile soit répandu partout dans le monde et que des persécuteurs même viennent à lui. Et lorsque nous sommes disposés à prier pour ces causes, à nous aligner avec cette volonté de Dieu, à participer en fait à l'œuvre de Dieu, Dieu est prêt à nous donner ce que nous demandons, pourvu que cela soit pour exercer la justice et la droiture, et faire de sa volonté. Et la Bible va nous dire aussi que dans un Jean dit que nous avons cette assurance auprès de lui, que tout ce que nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. Donc quand on demande quelque chose selon la volonté de Dieu, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons que tout ce que nous demandons, il nous donnera. Est-ce que nous demandons selon sa volonté? Est-ce que nous demandons à Dieu des choses pour faire avorter? Est-ce que nous demandons parfois pour accomplir nos désirs, pour satisfaire nos passions, comme Jacques l'a dit aussi? Parfois, on peut demander à Dieu de ne pas recevoir. Cela peut faire croire que, voilà, que Dieu ne résiste pas tout, que Dieu n'écoute pas tout le monde. Mais du moment où nous sommes disposés à satisfaire les désirs de Dieu, la volonté de Dieu, je pense que Dieu est prêt à nous aider. Je veux vraiment nous exhorter à aller dans ce sens, que nos désirs, que nos besoins, ceux dont nous sommes prêts à investir, soit pour la gloire de Dieu. Que nous soyons vraiment disposés à participer à cette œuvre de Dieu. Nous avons cette soif de prier pour les âmes, de prier pour ces personnes qui sont persécutées, ces chrétiens-là qui sont persécutés. Dieu ne veut pas, en fait, Dieu ne veut pas que ces enfants qui sont dans le monde soient ainsi persécutés. Mais en même temps, nous savons que nous sommes dans le monde, il y a un grand combat entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. C'est un vrai combat et nous devons y participer. Dieu nous a mis là pour que nous participions à ce combat-là. Par nos prières, par nos intercessions, par nos biens, par nos soutiens, à participer à ce combat. Que Dieu vous bénisse.
Merci Flavien.
Je vais aller plus loin que ce que tu as présenté. Et c'est pas parce que je prends le pupitre que c'est plus important que ce que tu as dit. Merci pour ce message. Et cette invitation au combat spirituel, alors, j'avais envie de vous partager des petits moments futurs pour Flo et pour moi. Christelle, merci de ta prière. Et effectivement, nous partons en voyage auprès de l'Église persécutée la semaine prochaine. Et durant ce voyage, on a des temps de réflexion le matin ensemble dans le groupe. Et je vais vous partager trois des temps que j'ai préparés pour ces moments-là. Et ça s'inscrit tout à fait dans ce que tu as introduit, Flavien. Sagesse, discernement, intercession, présence auprès de nos frères et sœurs persécutés. Tout ce qu'il y avait dans ce que tu nous as invités à vivre. De donner aussi de son temps, de ses moyens, autant qu'on puisse. Alors, trois petites choses, hein, c'est des toutes petites choses que j'envisage de partager avec le groupe avec lequel nous accompagnons. La première chose, c'est quelque chose que j'ai développé déjà ici, donc je vais être très très rapide, sur le combat spirituel, effectivement. Et quand on va dans un pays comme ça, qui est hostile à l'Évangile, c'est un vrai combat spirituel. Il y a une vraie préparation à avoir. J'avais montré une photo ici il y a quelque temps avec une photo de la Koutoubia et puis une photo de deux personnes en prière. C'était des ombres d'ailleurs, j'avais juste qui était notre serviteur et puis un ami et on était en prière à côté. L'un et l'autre sont très banals, les deux ensemble, c'est un combat spirituel. La Koutoubia, c'est, je ne sais pas pour ceux qui ne savent pas, c'est le minaret de la mosquée principale de Marrakech. Donc c'est cette grande tour qui est une des images très touristiques de Marrakech. Les deux ensemble, c'est un combat spirituel. Et j'avais rappelé que les anges et les puissances spirituelles de méchanceté sont à la fois localisées dans le temps et dans l'espace. Je ne vais pas développer parce que j'avais déjà développé, mais voilà. Ce qui justifie aussi de prendre l'avion, d'avoir un taux de CO2 consommé gigantesque pour aller prier, alors qu'on peut se dire mais pourquoi on ne prie pas depuis ici? La prière, elle n'est pas localisée. Et c'est vrai qu'on peut, très bien prier pour nos frères et sœurs persécutés depuis ici, sans problème. C'est faisable. Mais il y a quelque chose de particulier à aller à l'endroit où les puissances spirituelles de méchanceté se trouvent. Et pour nous, ce n'est pas anodin. Et donc ça, c'est des choses dans ces voyages-là, on rappelle. On rappelle qu'on n'est pas venu là uniquement pour faire du tourisme, et dans des voyages d'intercession, c'est non seulement, c'est essentiellement de l'intercession pour nos frères et sœurs persécutés, et c'est autant que faire se peut de l'encouragement des frères et sœurs que l'on peut rencontrer, mais ce n'est pas toujours possible. Ou si c'est possible, c'est un peu de loin, ou en les saluant de loin, ou en faisant comprendre qu'on est là. Dans certains pays, on n'entre absolument pas en contact avec des chrétiens sur place, et au mieux, on affiche qu'on est chrétien et avec une croix, parce que nous, on peut l'emporter, et ils voient qu'on pense à eux. Mais c'est tout. On n'aura pas de contact. Donc c'est de l'intercession et d'être avec nos frères et sœurs persécutés. Et dans ce combat spirituel, la Bible nous donne des armes, hein, en particulier en Éphésiens 6. Là aussi, je ne développe pas ce que j'avais développé. Et ce qui m'avait frappé en regardant à nouveau ces passages, c'est que sur les 7 armes que l'on a, celle qui est centrale, c'est la foi. Sur les 5 que l'on a. 7, je dis bien. Vérité, justice, évangile de paix, et après la foi et le salut, la parole de Dieu et la prière. C'est les armes qui nous sont données en Éphésiens. Autre chose que je développe, c'est quelque chose que j'intitule « Amour et unité ». Un verset dans Jean 13, au verset 34, nous dit « Je vous donne un commandement nouveau ». Le Seigneur nous dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors, ce passage, on l'entend souvent en local, dans notre église et dans nos petites relations, dans nos relations courantes, pas petites, mais nos relations très proches et courantes. Oui, c'est vrai. Mais il y a 3 choses dans ce passage. C'est un commandement. C'est un commandement. C'est pas une option de s'aimer les uns les autres. C'est pas quelque chose que si j'ai le temps, ou si j'ai envie, ou celui-là il me plaît pas, ou un tel, non, je vais pas l'aimer parce qu'il m'a énervé, ou parce qu'il dit pas des choses qui me plaisent bien. C'est un commandement. Deuxièmement, c'est une preuve concrète qui est appelée, d'avoir, que l'on voit que c'est que nous nous aimons. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit voir. Et le fait qu'on le voit, troisièmement, c'est un témoignage. Et quand on va dans des pays où l'Église est persécutée, ne nous leurrons pas, même si dans certains cas les gens ne le voient pas et qu'on se fait passer pour un touriste lambda, dans les cieux, on voit qu'on est venu parce qu'on aime les gens qui sont là, nos frères et sœurs qui sont là. Et c'est un témoignage devant les puissances spirituelles de méchanceté, mais aussi devant ceux qui peuvent le voir, qu'on vient spécialement voir nos frères et sœurs persécutés. Et même si on ne les rencontre pas, même si on n'a pas l'occasion de discuter avec eux, c'est pas toujours, parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est un témoignage de cette unité. C'est un commandement, il nous faut des preuves concrètes. Et c'est un témoignage pour ceux qui sont autour et pour les puissances spirituelles de méchanceté. Hébreux 13 nous dit « Persévérez dans l'amour fraternel. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. » Alors ça, c'est le point qui met l'accent sur le fait que nous sommes ensemble. Et ceux qui sont prisonniers, c'est quoi? Alors oui, on imagine les prisons autour de nous, actuelles, oui, mais aussi prisonniers dans des pays dont on ne peut pas sortir, dans des pays dans lesquels on est prisonnier dans sa foi, dans son expression, dans sa liberté de parole et de réunion aussi. Ce sont des formes de prison. Je ne parle pas de la prison spirituelle dans laquelle certains se trouvent. Je reste à l'état de nous occuper de nos frères et sœurs, mais il y a aussi ceux qui sont prisonniers de culture, prisonniers de pensées qui sont véhiculées de façon générale d'ailleurs, pas que dans des pays lointains, mais aussi chez nous. C'est une invitation particulière à ceux qui sont dans les difficultés, cette invitation de, de Hébreux 13. Persévérez dans l'amour fraternel. Souvenez-vous des prisonniers dans les difficultés. Et on est invité à la compassion. Et la compassion, c'est souffrir avec. Étymologiquement, compatir, c'est souffrir avec. Est-ce que nous nous sentons aussi prisonniers de nos frères et sœurs, comme nos frères et sœurs? Est-ce que nous nous sentons persécutés comme nos frères et sœurs dans certains pays? Est-ce qu'on ressent ça? Alors, si on ressent ça, on va participer à ce cri à notre Dieu, à l'Éternel, pour la libération, non seulement de nos frères et sœurs, mais quelque part de nous. C'est que nous prions aussi pour nous, parce que nous sommes un seul corps. Je rappelle ce passage du 1 Corinthiens 12. Hein. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui a manqué, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et on a cette double sensation de la souffrance, parce qu'il y a des membres qui souffrent du corps de Christ aujourd'hui et qui sont nos frères et sœurs. Et puis il y a des membres qui vivent des choses extraordinaires. Et pour ceux qui ont eu le privilège d'être au week-end, dont Christelle a parlé le week-end dernier, combien on se réjouit quand on voit des délivrances dont certains sont l'objet dans des pays persécutés. Et alors tout le monde se réjouit. Mais pourquoi on est aussi joyeux que ça? Pourquoi on pète de joie quand on apprend des choses de délivrance dans les pays qui sont à 10 000 km ou plus? Parce que nous vivons ce corps. Parce qu'on est heureux parce que un de nos membres a été sauvé, a été aidé, a vécu quelque chose de proximité avec Dieu. C'est pour ça qu'on est joyeux. Sinon, l'histoire d'un Pékin qui est à 10 000 km, honnêtement, ça me fait quoi, moi? Si je ne réalise pas que c'est en fait que c'est moi-même, que c'est une partie de moi-même, c'est un membre du corps. Parce que la main, elle ne dit pas à la main gauche, tu n'es pas moi-même. Hein? Donc je peux dire que nos frères et sœurs à 10 000 km sont moi-même. La tête ne traite pas l'orteil comme étant quelque chose d'autre. Elle traite comme étant une. Alors, en disant ça, on ne dit pas, et le passage de 1 Corinthiens est assez édifiant là-dessus, ne dit pas que tout le monde doit faire toujours toute la même chose et la même façon d'exprimer notre solidarité ou notre façon d'aimer les uns les autres. Hein. Et chaque membre a sa fonction. Et chacun doit répondre juste devant Dieu à l'appel qu'il a reçu. Et ce n'est pas parce que je parle de ce qu'on va faire cette semaine avec Flo que ça s'impose à quelques-uns ou d'autres. Ce n'est pas du tout ça. Chacun a son appel, son rôle dans l'ensemble. Et il n'y a pas de petit rôle ou de grand rôle. Il y a chacun a juste sa responsabilité de répondre à l'appel qui est devant lui. Puis troisième petit point, et je serai beaucoup plus long, troisième petit point que je vais aborder, c'est on a deux cas particuliers de population pour lesquels la parole nous invite à prier. Et là, c'est un peu spécifique, et Christelle aussi, tu l'as mentionné un peu dans ta prière en entrée. Je vais commencer par mon deuxième point, qui sont prier pour nos ennemis. Et nos ennemis, ce sont aussi les ennemis de l'Église persécutée aujourd'hui. Et en Luc 6, nous disons, « Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Alors, pour nous, c'est facile à lire ça. C'est facile à lire. Dans des pays où il y a vraiment la persécution, c'est compliqué. C'est compliqué aussi. Et pourtant, c'est... Croyez bien que nos frères et sœurs dans les pays persécutés le font beaucoup plus que ce que nous le faisons. Ils prient beaucoup plus pour leurs ennemis, pour les personnes qui les attaquent, pour leur salut, pour qu'il puisse pardonner aussi de ce que nous sommes capables de faire, nous, ici. Nous, on hurle après les petites contrariétés, après les moqueries, et à juste titre, quand une des églises évangéliques se fait moquer sur les médias, on hurle et c'est grave. Oui, et c'est bien que on le mette en évidence. Mais c'est pas du tout au niveau de ce que vivent nos frères et sœurs persécutés dans le monde, dans plein de pays. Et nous avons du mal, nous. Est-ce que nous avons prié honnêtement pour Élise Lucet, pour sa conversion, pour qu'elle trouve le chemin de Christ? Je parle de cette émission d'envoyé spécial. Est-ce que nous faisons ça? Est-ce que naturellement nous avons cet élan de dire oui, quelqu'un nous attaque, et c'est relativement léger, même si c'est important et que ça montre une évolution sur laquelle il faut qu'on soit attentif, hein, je ne minimise pas, mais on n'a pas été agressé physiquement et pas très gêné dans notre fonctionnement de tous les jours quand même. Hein. Mais est-ce que nous avons fait cette démarche de prier pour ces équipes qui maltraitent l'Église quelque part? Voilà. Et dans ces pays-là, c'est quelque chose qui est fait. La suite de ce passage, après une grande parenthèse, mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer. Et pourquoi? Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Incroyable. Luc 6, 35. Deuxième cas particulier pour lequel nous avons à prier, ce sont les autorités. Et on l'a fait encore aussi un peu ce matin. 1 Timothée 2, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. » Pour les autorités et pour tous les hommes. Et ça, c'est peut-être au-delà d'aller s'occuper, intercéder pour l'Église persécutée, mais prions aussi pour tous les hommes. En particulier ceux qui ont autorité. Mais il faut développer cette prière constante pour tous les hommes. Prions avec des prières précises, avec des noms. On a Joël, ici, prie souvent pour les autorités avec des noms. Des fonctions, évidemment, mais avec des noms. Ce sont des personnes. Ce sont des personnes qui sont dépositaires d'une autorité voulue par Dieu. Ce sont des personnes avec un nom. Et on a aussi à donner ces noms dans nos prières. En distinguant, et ça, c'est là, plutôt en particulier pour les autorités des pays où il y a la persécution, en distinguant la personne que le Seigneur veut sauver et ses agissements. C'est une personne, c'est un être vivant pour lequel Christ est mort. Et puis, ses agissements sont mauvais. Mais essayons de distinguer ses agissements de la personne. C'est difficile, hein ? Et on le dit, nous, encore une fois, dans un pays où c'est des choses pas géniales, mais pas plus que ça. Il y a des pays où c'est compliqué de distinguer ça, de distinguer la personne que Dieu veut sauver et les agissements. C'est plus difficile. Mais tout ça, l'Épître à Timothée nous dit que c'est pour une vie de piété. Donc c'est pas une vie oisive, simplement pour notre simple plaisir, parce qu'on aurait une bande de copains qui serait au gouvernement. Hein, on ne va pas prier pour les autorités pour avoir des copains au gouvernement. Hein, c'est pas ça l'idée. Hein. C'est plutôt que tous, il est gentil et qu'on peut les saluer en tant que frères et sœurs. C'est super. Mais c'est pas tellement ça qu'on va chercher. Ce qu'on va chercher, c'est que d'abord, les personnes viennent à Dieu, et ensuite que nous puissions avoir une vie paisible et tranquille, en toute piété, pas oisive, paisible, en toute piété. Et peut-être que dans nos pays, on a une sorte d'endormissement, d'anesthésie spirituelle, hein, un peu parce que justement on n'est pas très très peu persécuté, on n'est pas persécuté, on va dire. Il y a une réflexion, une appellation que j'ai entendue d'un chrétien égyptien. Je ne sais plus qui m'a rapporté cette expression-là, mais qui nous traite d'église endormie. Ils sont l'église persécutée et nous sommes l'église endormie. Je ne suis pas sûr que ce soit complètement faux. Et donc, prions aussi pour que Dieu n'ait pas besoin de nous titiller avec un peu, en permettant un peu de persécution pour nous réveiller. Peut-être que c'est ce qu'on peut essayer, s'encourager à faire, à être moins endormi, c'est-à-dire plus sur nos gardes et plus engagé dans la justice de Dieu, comme tu nous y as invité, Flavien. Plus engagé pour la justice de Dieu, priant pour avoir de la sagesse, de la hardiesse aussi, pour aussi répondre à ce que le Seigneur nous donne à la fin de l'Évangile, hein, d'aller vers les nations, de baptiser et de faire des disciples partout jusqu'au bout de la terre. Voilà, que nous soyons réveillés, que nous soyons engagés dans un projet de marcher pour Dieu en toute justice, et que nous ayons la sagesse et le discernement pour cela. Je ne l'ai pas dit, mais merci d'avance pour vos prières, pour votre voyage.
Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a, il faut distinguer en fait les autorités et les actions. Et en ce qui concerne la prière, je pense que même Paul a beaucoup insisté sur ça. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits impurs dans le lieu céleste. C'est-à-dire, notre âme, en fait, notre premier recours doit être la prière. La prière, intercéder pour ces personnes-là. Nous formons un seul corps. Est-ce que nous prions vraiment pour ces personnes? Parce que par nos prières, Dieu peut agir. Dieu peut agir par nos prières. Tu peux vraiment agir, quoi. Si tu vois des gens qui ont cette soif-là, que le frère qui soit persécuté soit libéré, tu peux agir. Tu peux vraiment agir. Merci pour le message. Oui. Seigneur, toi, tu peux dire allez partout. Allez partout dans le monde, fait de toutes les nations des disciples. C'est alors que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est toi, tu cherches des gens qui sont prêts à se tenir à la brèche, comme Moïse, Père. Tu cherches des personnes comme Daniel, Père Seigneur, pour plaider à la libération de son peuple. Tu cherches des personnes assoiffées, Père, de la justice. Des personnes, Père, qui désire, Père, que les choses changent. Tu cherches des personnes actives, Père. Parfois, nous avons ce désir, parfois, nous avons cette envie, Père, Seigneur, de voir nos frères et sœurs être libres. Mais en même temps, Père, nous sommes retenus par vous. Tu nous as donné ton esprit, l'esprit de vérité. Nous supplions, Seigneur, que tu nous donnes cette envie, que tu produis, Seigneur, parce que ce vouloir, parce que c'est toi qui donne, qui produis le vouloir et le fait en nous. Je t'en supplie, Seigneur, produis-le en nous, Père. Afin que nous ayons ce désir de contribuer, Père, à ce projet, Père, à ton projet de sauver l'humanité, ton projet de sauver les âmes. Permets-nous de participer, Seigneur, à ce projet. Par nos prières, Seigneur. Par nos biens, Seigneur, par nos biens matériels, par nos œuvres, Père, que nous puissions participer à ce projet. Aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous à nous approcher plus de toi, à chercher à te connaître, Père. À connaître vraiment ta volonté. Ta volonté, Père. Aide-nous à nous approcher plus de toi. Et c'est alors que nous pouvons discerner vraiment ce que toi tu veux. Ce que tu veux pour les nations. Ce que tu veux pour les persécuteurs. Ce que tu veux pour les persécuteurs. Merci de travailler nos cœurs. Merci d'être à l'œuvre afin que nous puissions vraiment faire ce que toi tu veux et non ce que nous voulons faire. De toute la gloire, toute la puissance te revient. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.